Chers auditrices, chers auditeurs de Mai de Résistance, Radio Galère 88.4, on se retrouve ce soir en pleine canicule, ce mois de juillet 2025, avec Odile, qui justement va nous parler de quelque chose qui va vous plaire, parce que vous avez certainement très chaud, et ça va vous rafraîchir. Elle va vous parler du plan Oasis. Alors, Odile, bonjour. Je vais te laisser déjà. On te retrouve. Pas trop chaud, ça va?
Ça va, ça va.
Bon, très bien. Mais Odile, elle est toujours très modérée dans ce qu'elle fait. Donc, je ne pense pas qu'elle se soit amusée à faire des gestes excessifs. Donc, pour conserver son énergie malgré sa chaleur. Tu vas nous parler du plan Oasis. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors, bonjour à tous et puis très heureuse de vous retrouver. Alors, le plan Oasis, oui, c'est quelque chose d'extrêmement, significatif par rapport à l'impasse où on se trouve, notamment avec la guerre au Moyen-Orient, ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire que, en réalité, si on veut bâtir la paix, qu'est-ce que ça veut dire? La paix, ce n'est pas simplement de rejeter la guerre. Oui, il faut rejeter la guerre, c'est évident, mais il faut plus que ça. La question, c'est comment est-ce qu'on gagne la paix? Et ça pose, pour le Moyen-Orient, ça pose une question qui est absolument vitale pour cette région du monde, qui est la question de l'eau. Et ce plan Oasis, en fait, a été élaboré dans un premier temps par M. Larouche en 1975. Et en fait, il avait eu cette idée à la suite de discussions qu'il avait eues avec des représentants du Parti Basse en Irak en particulier, mais aussi avec des représentants du Parti Travailliste en Israël, qui étaient des gens qui pensaient déjà au futur, qui pensaient au long terme, et comment justement bâtir une prospérité commune. Donc ça, c'est le début en réalité de ce plan Oasis.
D'accord. Donc c'est la question de l'eau qui revient sans cesse et qui aujourd'hui revient de manière d'autant plus cruciale que l'atmosphère se réchauffe de plus en plus avec le réchauffement climatique. On le voit bien chez nous, c'est qu'il a fait très chaud ces derniers jours. J'espère que, on est obligé de s'adapter. Le plan Oasis, c'est en quelque sorte la mise en conservation de ce qu'on appelle l'or bleu, quelque part, ou le pétrole bleu. Puisque souvent, il y a même d'ailleurs des économistes qui diffusent la théorie selon laquelle l'eau, dans les préoccupations des différents États en recherche de devises ou de denrées qui leur permettent de s'enrichir, va bientôt remplacer pratiquement le pétrole. Ça deviendrait une denrée rare qui pourrait enrichir un pays qui en est pour qui elle est en abondance, en opposition de la même façon que le pétrole a pu le faire pour certains autres États.
Oui, alors je ne partage pas du tout cette vue.
C'est une vision pragmatique. Hein.
C'est une vision, je pense, qui est dictée par des considérations quelque part oligarchiques. Là, je voyais un tweet qui circulait tout récemment. Pardon. Sur un responsable de, je crois que c'est Nestlé, si je ne me trompe pas, qui était en train de dire qu'il faudrait envisager de privatiser l'eau. Hein, parce que à partir du moment où vous dites, pardon, à partir du moment où vous commencez à dire que quelque chose est rare, qu'une denrée est rare, bien souvent vient derrière justement cette autre considération que puisqu'elle est rare, elle a un prix et que ce prix va monter. Alors le problème de l'eau est tout différent. On est sur une planète où il y a beaucoup d'eau. On manque pas d'eau sur cette planète. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que j'ai plus les chiffres précis en tête. Je crois que 71% de l'eau, c'est de l'eau salée. C'est l'eau des océans. Donc, ça pose des défis. L'eau, elle est là. Ça, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. La question, c'est comment est-ce qu'on la rend disponible pour tous dans les meilleures conditions. Ça, c'est le problème de fond.
Oui, tout à fait. Et donc, le plan Oasis, tu me dis, en quelle année a-t-il été mis en place?
Alors, il n'a pas été mis en place, justement.
Pardon. Oui. Oui, je sais qu'il n'a pas été mis en place, ça se saurait. En quelle année a-t-il été conçu, pardon?
Alors, il a été conçu en 1975, et je pense que c'est important de noter que c'était à la suite de discussions, donc avec des partis, des éléments du parti Baas et en Irak et en Syrie, et des éléments aussi du parti travailliste en Israël, en particulier autour de Abba Eban, qui sont des gens qui représentaient vraiment cette aile progressiste en Israël, et c'est des gens qui pensaient en termes qu'il ne pourrait y avoir de paix dans tout le Moyen-Orient que dans la mesure où on se mettrait d'accord sur cette question de la ressource de l'eau, parce que l'eau c'est la vie, bien évidemment, mais l'eau, il y a plusieurs facettes. Il y a l'eau douce pour que les gens puissent consommer, il y a l'eau pour les cultures, il y a l'eau qui produit de l'énergie, donc il y a toutes ces différentes facettes, et que s'il y avait un accord là-dessus entre les différents pays, alors on avait une base sur laquelle on pouvait s'entendre. Parce que, soit dit en passant, vous prenez le Moyen-Orient, en réalité, c'est vrai que c'est une région, on la regarde comme ça, on se dit, ah oui, c'est les déserts, c'est ceci, c'est cela. Mais d'un point de vue régional, le Moyen-Orient, il n'y a pas en tant que tel de pénurie d'eau. Par contre, il y a une répartition qui est terriblement inégale. C'est-à-dire que vous avez des pays où il y a effectivement de l'eau en abondance. C'est le cas de la Turquie, par exemple, ou d'autres, dans certaines parties de la Syrie aussi, il y a beaucoup d'autres, ou au Liban. Dans les montagnes du Liban, c'est verdoyant. Il n'y a pas de problème de pénurie d'eau en tant que tel. Par contre, oui, c'est vrai, dans d'autres parties du Moyen-Orient, ce sont des déserts. Et là, il y a un vrai problème. Donc c'est là, il y a effectivement quelque chose à trouver.
D'accord. Donc, quelles sont les solutions que propose le plan Oasis?
Alors, le plan Oasis, c'est déjà de dire, OK, en ce qui concerne, là, je vais resserrer un petit peu, je vais mettre le projecteur sur ce qui se passe à l'heure actuelle à Gaza, dans les territoires occupés de Palestine et en Israël, parce que ce plan a été pensé en particulier avec cette dimension à l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, déjà, il faut que Israël abandonne son contrôle exclusif des ressources en eau, parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait un partage équitable des ressources entre tous les pays de la région. Alors, c'est quelque chose qui est possible si, là encore, il faut une volonté politique de le faire. Mais il y a, par exemple, Israël a réussi à se rendre grâce à la technologie, grâce notamment à des usines de dessalement d'eau de mer. Il y a 5 usines de dessalement d'eau de mer sur la côte entre Haïfa et donc la bande de Gaza. Il y a 5 unités de dessalement qui produisent, j'ai plus les chiffres en tête, mais qui assurent la consommation genre à 80% de ce qui est nécessaire pour Israël. Il y a d'autres usines qui sont en construction, et à minima, par exemple, il faudrait une usine de dessalement d'eau de mer qui soit construite par exemple au large de Gaza, vu maintenant tout a été détruit à Gaza, pour ramener l'eau. Il faut quand même voir, par exemple, qu'à Gaza, il suffit que Israël coupe l'électricité et il n'y a plus d'eau. C'est terminé. Et là, c'est ce que l'on vit à l'heure actuelle. Donc il y a un enjeu de reconstruire une capacité de production d'eau, et ça passe notamment par le dessalement de l'eau de mer. C'est des technologies qu'on maîtrise très bien aujourd'hui. Il n'y a aucun problème.
D'accord, mais ma question, c'est, je sais que dans certains endroits critiques, comme Gaza, parfois, là où les gens n'ont pas d'eau, vous avez des hôtels 4 ou 5 étoiles qui accueillent les touristes et qui ont ce qu'il faut pour dessaler. Donc je me suis dit que ça devait être très cher. Est-ce que ça coûte très cher le dessalage? Parce qu'autrement, ça serait la solution pour toute l'Afrique et le Moyen-Orient.
Ah ben oui, bien sûr que c'est la solution, mais...
Est-ce que ça coûte très cher, si cher que ça?
Il faut voir, comment dire, les ordres de prix à l'heure actuelle, les échelles de prix, comment dire, n'ont plus grand-chose à voir avec... Si on parle par exemple de 20 milliards de dollars, hein, c'est à peu près le prix, je crois que c'est grosso modo ce qui est estimé pour un premier projet de reconstruction, de nettoyage, on pourra dire, de déblaiement plus exactement, de Gaza. Bon, en réalité, ça paraît des sommes d'argent considérables, mais c'est rien du tout. Enfin, il faut vraiment, si vous voulez, on est quand même en train de... On est dans un monde, à l'heure actuelle, où vous avez une crise de la dette américaine. Les Américains, ils ont 37 000 milliards de dollars de dette, où vous avez une bulle financière des produits dérivés qui est environ de 2 milliards de dollars. Donc, si on parle... par exemple, de quelques milliards de dollars pour faire des installations de dessalement à Gaza ou dans cette région-là, c'est rien. Après, ce qu'il faut voir, c'est ce que ça va rapporter. Et ça rapportera évidemment infiniment plus. Et donc les hôtels, s'il y a des hôtels qui ont les capacités de faire ça, moi ça m'étonnerait personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'investissement, qu'est-ce qu'il va rapporter? Et il va rapporter 10 fois ou 50 fois plus, je ne sais pas, je dis ça comme ça un petit peu à la louche, mais quel que soit l'investissement, c'est un investissement à long terme qui sera rentable de par sa nature.
Exactement, on est d'accord, on est bien d'accord.
Oui, oui.
Mais le dessalage de l'eau de mer pourrait ainsi être la solution pour le futur.
C'est une des solutions. C'est une des solutions. Alors, dans le cas, par exemple, du plan Oasis, il y a d'une part la question du dessalement de l'eau de mer. Après, il y a comment cette eau... Par exemple, il y a un projet qui couple la question du dessalement de l'eau de mer et il y a la question aussi de l'énergie. Donc, par exemple, nous, ce que nous préconisons, c'est d'avoir un projet où on dessale l'eau de mer, après l'eau de mer est acheminée vers la mer morte. La mer morte, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, elle se situe à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, vous acheminez l'eau, vous pouvez même acheminer l'eau, on achemine l'eau donc vers la mer morte. Quand vous arrivez à la mer morte, vous avez une chute de 400 mètres, donc vous pouvez avoir un réservoir avec construit de telle sorte qu'au fond de ce réservoir, vous ayez une sorte de pipelines, en tout cas avec une, comme on a dans les barrages en quelque sorte, c'est-à-dire que vous avez une chute d'eau très forte et qui va générer de l'hydroélectricité. C'est-à-dire que vous acheminez de l'eau en tombant dans cette faille de 400 mètres en dessous du niveau de la mer, génère de l'électricité. L'eau aussi peut générer de la saumure qui va forcément, le dessalement génère de la saumure que vous allez mettre dans la mer morte. Or, il se trouve, alors ça c'est un détail technique qui a toute son importance, c'est que la mer morte, le taux de salinité est de 27%. Et la saumure, quand on dessale l'eau de mer, vous avez une teneur en salinité qui est de 4 à 7%. Donc si vous rejetez la saumure dans la mer morte, finalement, ça ne pose pas de problème particulier. Et à partir de là, vous pouvez aussi acheminer de l'eau vers d'autres régions, que ce soit en Palestine, que ce soit en Jordanie et bien sûr en Israël.
Les réseaux d'infrastructures qui permettent ainsi d'acheminer l'eau d'un état à un autre existent déjà ?
Justement, tout est à construire. C'est-à-dire qu'au niveau israélien, eux, ils ont fait des grands travaux là-dessus. Donc, c'est pour ça aussi qu'Israël est autosuffisant en eau. Ils vendent même de l'eau à la Palestine, en réalité, ça c'est pas très connu, ouais. Mais ils en vendent donc dans une certaine mesure, dans une certaine proportion, et ils en vendent aussi à la Jordanie. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle la Jordanie est totalement dépendante d'Israël en ce sens-là, parce que eux, ils dépendent de la fourniture en eau d'Israël. Donc ça, c'est un autre aspect qui est à prendre en considération. Mais dans le cas du plan Oasis, ce qui est important, c'est de voir prendre la région dans son ensemble, de prendre aussi...
C'est faire une approche vraiment territorialisée.
Il faut une approche globale de toute la région, voir par exemple où vous avez des sources d'eau. Par exemple, la question de la Turquie se pose. La Turquie, c'est une région, c'est un château d'eau en réalité, parce que vous avez des montagnes, voilà. Et la Turquie, c'est un fait qu'elle a utilisé elle aussi. Elle a fait la guerre de l'eau parce qu'elle est en mesure de fermer en quelque sorte l'approvisionnement en eau du Tigre et de l'Euphrate. Et donc il y a eu beaucoup de problèmes entre la Syrie, l'Irak, la Turquie, pardon, et l'Irak, la Turquie et la Syrie, tout simplement sur la question de l'eau, parce que
Ça a été source de dissension.
Voilà, parce que la Turquie a utilisé l'arme de l'eau contre des pays qui sont voisins.
C'est ça. Ouais.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui doit, à l'heure actuelle, où on doit... le plan Oasis, c'est justement de résoudre ces problèmes.
D'accord. Et donc, le plan Oasis est à l'initiative de l'Institut Schiller.
Alors, le plan Oasis, c'est un projet, donc, comme je le disais...
Le plan Oasis, c'est un projet donc qui a été lancé, qui a été initié par Lyndon LaRouche. Mais il faut dire que la question de l'eau, elle se pose avant. C'est-à-dire que lui, il a en quelque sorte recontextualisé des problématiques qui existaient déjà auparavant, et qu'il a, je dirais, son mérite là-dedans, c'est d'avoir repris des éléments des réflexions avec différentes parties, c'est-à-dire parce que chacun discute dans son côté, d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, il y avait des discussions en Irak, parce que l'Irak est concerné par la question de l'eau. En Syrie, la Syrie est concernée par la question de l'eau. Israël est concerné par la question de l'eau. La Palestine, tout le monde est concerné par cette question, mais chacun discute de son côté, jusqu'à certains points. Parce qu'il y a quand même, je ne veux pas non plus faire une caricature, mais c'est l'idée là était en quelque sorte de ramener cette question-là en faisant la base d'un projet de paix en réalité. Et il faut bien voir que, par exemple, dans les accords d'Oslo qui ont été mis en place, il y avait dans l'annexe 3 tout un paragraphe où effectivement il y avait cette idée de comment est-ce qu'on fait en sorte il y avait tout un paragraphe sur la question de l'eau, justement, comment l'eau allait être utilisée comment on allait mettre en place des infrastructures communes d'une part, et comment on allait avoir une coopération et avoir des projets communs. Donc ça, c'était très bien. Malheureusement, cette annexe 3, quelque part, il y a eu l'assassinat de Rabin en 1995, et puis ça s'est arrêté là. Et depuis lors, en réalité, c'est que Israël utilise l'eau comme une arme par rapport à la Palestine. Il faut savoir que la Palestine, ils ont de tous les pays de la région.
Ce qu'il en reste,
ils ont de tous les pays de la région le plus faible apport par personne de tous les pays de la région. Je peux retrouver des chiffres. C'est assez stupéfiant. C'est-à-dire qu'on est dans des ordres qui sont absolument incroyables.
Oui.
Donc voilà.
Ok. Et donc, avec le plan Oasis, quelles seraient les premières initiatives à prendre ?
Les premières initiatives, d'une certaine manière, d'un point de vue concret, c'est déjà de se réunir et de penser en termes des projets à réaliser.
D'accord. C'est déjà une des premières choses, ce que j'ai lu en regardant un peu ta documentation. L'eau, à travers l'eau, on peut se permettre de faire de la coopération et des accords diplomatiques. C'est ça, on fait de la diplomatie par l'eau.
Alors c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que le problème c'est que jusqu'à présent, je reviens sur les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, il y avait effectivement un volet sur la question de l'eau.
Les accords d'Oslo, je le rappelle, c'est les accords via lesquels il y a eu à l'initiative notamment de Yitzhak Rabin, il y a eu des accords de paix. À l'époque, Yasser Arafat était encore là entre Israël et la Palestine.
Voilà.
Avec un plan en plusieurs parties.
Voilà, un plan en plusieurs parties. D'ailleurs, on se souvient de la photo où on voit, c'était au moment de Clinton. Clinton avait joué un rôle très très important là-dedans. Et on voit la fameuse photo avec Yasser Arafat, Clinton et Yitzhak Rabin en train de se serrer la main. Donc ça a été un moment, c'était vraiment un moment clé, c'était un moment où il y avait une possibilité de changer les choses de manière absolument radicale.
Oui.
Et ça n'a pas eu lieu en réalité. Donc, quand on parle de l'eau, c'est une problématique qui est très, très, très connue au Moyen-Orient. Hein. Là, c'est pas quelque chose, c'est pas un scoop de ce point de vue-là. Comme le disait Yitzhak Rabin, et je vous rappelle sa citation, où il disait en 92, « Si nous réglons tous les problèmes du Proche-Orient, mais pas celui du partage de l'eau, notre région explosera. La paix ne sera pas possible. » Donc ça, c'était Yitzhak Rabin en 1992. Et il disait, il ajoutait, et ça c'est très important par rapport à aujourd'hui, « On ne fait la paix qu'avec ses ennemis. » Et c'est important. Yitzhak Rabin comprenait quelque chose qui paraît une banalité quand on le dit comme ça, mais qui aujourd'hui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vision du monde qui se répand partout, qui est ami-ennemi. Si tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi. Et pour exister, j'ai besoin d'un ennemi existentiel que je vais devoir éliminer. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, et ça, c'est pas simplement quelque chose qui est limité à la région du Proche-Orient ou du Moyen-Orient. C'est une façon de penser le monde, de concevoir la relation entre êtres humains qui s'est répandue dans toute la société. Hein, vous voyez la façon dont les gens sur les réseaux sociaux, par exemple, se parlent. C'est-à-dire qu'on est ami-ennemi. Soit tu es un ami et tout va bien, soit tu es un ennemi et dans ce cas-là, je dois t'écraser pour que moi, je puisse... C'est une question existentielle.
Voilà, tout à fait. Alors qu'en fait, on devrait voir en chacun un être différent avec lequel il s'agit de s'adapter et avec lequel on peut coopérer. Mais ça, c'est vraiment toute une question d'éducation. Et c'est vrai que le paradigme de la concurrence fait beaucoup de mal. Dans la concurrence, il y a toujours un perdant. Donc ça veut dire qu'on perd une richesse. Puisqu'il y a un perdant, on perd une richesse, même si on a un gagnant. Et puis, dans la concurrence, il y a trop de gens qui en sont victimes. Alors qu'il s'agirait tout simplement qu'on fasse de l'intelligence collective et de la coopération. Et dans le monde, ça se passerait beaucoup, beaucoup mieux. Mais pour changer de paradigme, qu'est-ce que c'est dur? Rien qu'en économie, en sciences économiques, en économie, on t'apprend que la concurrence pure et parfaite de Walras, c'est pas possible. Et qu'on a forcément de la concurrence imparfaite, quoi. Ça veut dire que tout le monde n'a pas les mêmes droits sur le marché. Et ensuite, on est toujours dans un paradigme, et on est dans un paradigme de concurrentiel. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la théorie numéro 1, qui serait explicative de notre monde économique, ce soit justement la concurrence, alors que normalement ça devrait être la coopération.
Oui,
mais... On est d'accord. Alors, coopération, ça fait penser aux coopératives, à tous ces systèmes de mutualisation des forces qui permettent à chacun de mettre en avant la valeur ajoutée qui est produite sur, dans une certaine, enfin, sur un certain secteur donné. Sur un secteur donné, et ça montre bien que on peut créer aussi des richesses qui sont bien plus durables. Alors, les richesses créées par la concurrence, c'est d'accord avec moi, Odile, que ça n'a conduit qu'à de la pollution et beaucoup de. Ça fait beaucoup de mal à la société. On est en train de réparer aujourd'hui.
Bon, il y a plusieurs choses là-dedans.
Oui, c'est vrai que je mélange tout.
Mais il y a plusieurs choses. Je pense honnêtement que ce qui est appris aujourd'hui dans les écoles d'économie ou de business, parce que c'est même plus de l'économie, sont des théories que toute la réalité montre que c'est totalement à côté de la plaque. Que ce sont des théories qui sont fausses. Et tout simplement, la réalité le démontre. On n'est pas le monde, la société, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Et on peut pas, on n'est pas dans la réalité, c'est que c'est pas en écrasant et en éliminant son ennemi qu'on se porte mieux. Ça c'est faux, ça n'est pas vrai, ça n'a jamais marché comme ça. Ça marche. On a en commun, nous en tant qu'individus, ce qui nous définit, c'est pas l'autre qui est un ennemi, c'est que justement avec quelqu'un qu'on peut considérer comme étant totalement dont on ne voit pas ce qu'on a en commun, ben, en réalité, on a beaucoup de choses en commun parce qu'il y a des valeurs universelles. Alors, je sais que ce mot, à l'heure actuelle, beaucoup s'efforcent...
Paraît dérisoire.
Oui, puis s'efforcent de le discréditer. Et je pense que, exactement comme pour les écoles de business, c'est les gens qui veulent dire les principes, qui veulent dire la loi entre guillemets, c'est toujours des gens qui ont une vision du monde très intéressée, c'est-à-dire que c'est une oligarchie financière qui a intérêt à ce que les gens croient à leur conte de fées, en quelque sorte, à leur vision de l'univers, mais une vision de l'univers qui leur est profitable, qui les conforte dans leur position, qui leur conforte dans leurs privilèges et qui leur conforte dans la possession des choses, parce que ce sont des intérêts qui pensent en termes de posséder. Donc on possède les richesses, on possède les endroits où il y a le pétrole.
C'est ce qu'on a coutume d'appeler la cupidité, en fait. Hein. Cette fameuse cupidité dont on nous rebat les oreilles depuis le bas Moyen-Âge.
Oui, c'est vrai, mais la cupidité...
La cupidité, finalement, c'est vouloir posséder des choses rien que pour les posséder, quoi.
Ouais, mais je pense qu'il faut à un certain moment rentrer un peu dans le détail de ce qu'est la cupidité. Parce que la cupidité, d'une certaine manière, à un certain moment, ça paraît trop un truc un peu... un défaut personnel. Bon, quelqu'un qui est cupide, c'est pas bien, quoi.
Public.
Peut-être, oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que la question de la possession, il y a quelque chose qui est beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire que on est face à une idéologie. Je reviens par exemple à cette... je ne me souviens plus le nom de la personne, mais qui disait il faut donner un prix à l'eau. Non, l'eau, c'est pas quelque chose de privé. L'eau n'est pas... Les ressources en eau, ce n'est pas quelque chose de privé. Je suis désolée.
Mais de toute façon, l'eau est bien considérée comme un bien commun.
Oui, mais l'argument de cette personne, c'est de dire...
C'est l'ONU qui a reconnu ça.
Oui, mais l'argument donc de cette personne, c'était de dire oui, l'accès à l'eau n'est pas reconnu dans les droits de l'homme, donc l'eau, c'est quelque chose de privé. Bon, c'est un sophisme, hein, bien évidemment, on est d'accord, c'est totalement faux. Mais si les gens ne réfléchissent pas vraiment, ça a des conséquences terribles. Mais l'idée, c'est encore une fois la possession, c'est-à-dire la possession des ressources, par exemple pétrolières ou des ressources en énergie, tout ce qui est les ressources énergétiques fossiles, n'est pas suffisante. Donc on passe à autre chose, on passe à la possession de la ressource, exactement de la même manière d'ailleurs dont on veut posséder les gens.
on veut posséder comment dire les gens qui travaillent pour telle industrie, on veut créer politiquement une situation où les gens sont dépendants, c'est-à-dire que quelque part ils sont la possession d'intérêts financiers privés. Aujourd'hui, je fais une petite digression, mais il y a toute la discussion sur notamment avec Trump, qui parle beaucoup des stable coins, qui vient de faire une loi d'ailleurs, qui autorise à ce que des intérêts privés émettent notamment des crypto-monnaies. Et je ne sais pas si des gens percutent vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous avez des intérêts privés qui créent des monnaies, on est au retour au Moyen-Âge. Pire que le Moyen-Âge. C'est vraiment exactement ce contre quoi la Révolution française s'est faite. C'est-à-dire que c'est des intérêts financiers privés qui veulent avoir absolument le contrôle de tout. On est dans cette logique-là. Et quand on parle du plan Oasis, le plan Oasis justement brise quelque part avec ça, en disant, en mettant en avant le fait qu'il y a un intérêt commun supérieur qui est d'une destinée commune à l'humanité, et que c'est là où on va trouver la solution. Et c'est vrai. En ce qui concerne le Moyen-Orient, la pierre angulaire de ça, c'est l'eau, plus encore qu'ailleurs.
Tout à fait, puisque en fait, effectivement, moi je trouve qu'il y a un vide juridique dans nos droits, notre droit national, le droit européen et le droit international, qui vise, bon, des fois on évoque le fait qu'il puisse y avoir des biens communs à l'humanité, notamment ça c'est via des organisations internationales comme l'UNESCO, patrimoine qui impose le sceau patrimoine de l'humanité et qui impose des contraintes aux gens qui vivent sur le territoire concerné. Mais qui en même temps sont aidés dans leur objectif de l'entretenir. Il y a des paysages naturels, il y a du patrimoine religieux ou archéologique dans tout ça, bref. Et de toutes les époques. Mais par contre, je crois qu'on a vraiment un vide juridique sur la question, à proprement parler, des communs. Et ne serait-ce que nous en France, moi je pense que les communs, ça devrait être quelque chose qui devrait être inscrit dans la Constitution. Je pense que, comme tu le dis si bien, à commencer par l'eau devrait être considérée comme un bien commun, mais également les paysages, mais également l'air, mais également la faune et la flore. Et on ne voit rien de tout ça pour l'instant. On voit bien qu'on est dans un entre-deux, où on a un vide juridique, on a une propriété privée, point. Alors qu'il y a une propriété commune, les communs, notre histoire, notre patrimoine culturel, tout ça, ça fait partie des communs. Donc dans les communs, on n'a pas que des éléments qui viennent de la nature, on a aussi des éléments qui viennent de la culture.
Oui.
Et c'est très important de le reconnaître. On ne l'a pas encore formalisé du tout. Piketty, l'économiste, le formalise un petit peu. Dans les livres qu'il a rédigés sur le capital et la façon dont il est partagé. Sur le capital et la façon dont il est partagé dans le monde et en France. Mais voilà, il y a quelques théoriciens. Alors, en plus, ce qui est très intéressant, Odile, si je parle de la France, au lieu de me focaliser sur l'Europe et le monde, c'est parce qu'en France, on a eu un épisode historique qui s'appelle la Commune, qui pour moi reflète la réalité de la société française, et c'est pas pour rien que ça s'appelle la Commune. C'est en hommage à la fois aux communes, qui s'appellent communes, parce que justement, dans leur étymologie, elles sont très proches de cette volonté de mettre en commun. Et la commune, c'est un épisode politique où on a voulu mettre en commun, et alors parce que le pouvoir était accaparé par une seule frange de la population, qui était minoritaire. Et donc, après la Révolution... Donc c'est pour ça que je disais que si un jour l'initiative de reconnaître constitutionnellement l'existence juridique du terme de commun, de bien commun, ça devrait être à la France d'en avoir l'initiative. Alors je vais te laisser parler, mais on va quand même mettre une petite musique très rapidement. Tu m'avais parlé de...
Asturiana de Albéniz.
Très bien.
Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est ça de mémoire.
Albéniz, Asturiana.
Thank you.
Voilà. Odile, merci de nous avoir choisi cette belle musique. Donc, tu voulais dire quelque chose sur le sujet des comas. Attention, il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Oui, alors, tout ça, ça renvoie à quelque chose, parce que ça... C'est quelque chose qui est présent en fait en France. C'est une particularité, enfin une particularité de la France. Il y a peut-être l'équivalent dans d'autres pays, mais en tout cas en France, historiquement, il y a ce qu'on appelle le domaine royal, qui est quelque chose d'inaliénable. C'est-à-dire que il y a en France une partie de du territoire français qui est quelque chose qu'on ne peut pas céder, que même les monarques eux-mêmes n'avaient pas le droit de céder, d'avoir de pouvoir intervenir sur ce territoire. Donc il y a cette notion de bien public qui passe au-dessus de tout, qui est présent. Et ça, justement, je pense que ce sont des choses, alors j'ai pas d'éléments précis là-dessus, mais je crains justement que ce serait ce type d'éléments qui soit remis en cause, parce qu'aujourd'hui on est dans une privatisation, dans une prise de contrôle du monde, de la société, par des éléments privés. Et c'est ça, si vous voulez. Quand dans le CNR, on parle beaucoup à l'heure actuelle du CNR, très bien, le Conseil national de la résistance, mais on oublie de revenir sur ce qu'ils ont dit. Et à un certain moment, ils mettent en cause très directement les nouvelles féodalités de l'argent. Non, ils ne disent pas les nouvelles, d'ailleurs, ils disent les féodalités de l'argent, et ils les rendent responsables de la guerre. Et ils ont absolument raison, parce que c'est cette vision féodale du monde. Féodale, ça veut dire, si vous voulez, des gens qui privatisent le monde. C'est les gens qui mettaient...
Dis-le carrément, c'est féodal et esclavagiste.
C'est la même chose, c'est la même façon de penser. L'un débouche sur l'autre, forcément. Mais si vous voulez, féodal, ça donne vraiment, ça renvoie quand même à quelque chose de bien, de plus général, plus générique d'une certaine manière, qui recouvre toute cette maladie de la féodalité, du colonialisme. C'est une façon de penser où on est dans cette idée qu'on va imposer son hégémonie à l'autre, qu'on va posséder tout ce qu'il y a à posséder, et que et les gens doivent venir manger dans votre main, en quelque sorte, si je peux mettre comme ça.
Mais on a vraiment l'impression qu'en ce moment, il y a des entités qui se battent justement pour mettre en place ce système féodal qui existait déjà en latence. Et que on est dans une période cruciale de l'histoire de l'humanité où on va soit basculer définitivement dans ce féodalisme où seule une petite minorité commanderont. Et aujourd'hui, c'est possible grâce aux nouvelles technologies. Et puis, ou alors, si on va arriver à cette fameuse étape cruciale d'envol de l'humanité vers un palier supérieur, où on se développe davantage, une évolution. Voilà, bon, je ne voudrais pas faire du darwinisme de bas étage, mais c'est une évolution qui n'est pas seulement physique, mais qui est globale, donc aussi bien spirituelle que matérielle, que... Voilà. Bon, on va être obligé d'arrêter. Je te laisse terminer, parce que on va déborder sur l'autre émission. Je vais me faire taper sur les doigts. Je te laisse terminer, dire ce que tu as à dire, et puis dire au revoir à nos auditeurs. Et tu me voilà.
Merci. Alors très rapidement, je reviens sur le plan Oasis, parce que justement, c'est cette question du développement et de l'aspect créatif de l'être humain qui peut changer son environnement. Et très rapidement sur le plan Oasis, comme je l'ai dit. Donc c'est l'abandon par Israël de son contrôle exclusif des ressources en eau, c'est la reconstruction et le développement économique de la bande de Gaza, c'est l'installation immédiate d'une usine de dessalement près de Gaza d'une manière ou d'une autre, c'est aussi la construction d'un réseau ferroviaire moderne, et c'est la réalisation d'un système d'adduction d'eau Méditerranée, mer morte et mer rouge, mer morte. Ça, c'est tunnels, pipelines, galeries d'eau, etc., etc. Et c'est donc la production d'hydroélectricité, comme je l'ai détaillé un peu plus avant tout à l'heure. C'est après la possibilité d'avoir cette eau douce qui sera dirigée ensuite vers la Jordanie, la Palestine et en Israël. Et c'est aussi de la possibilité d'avoir des unités, au moins une unité nucléaire de dessalement hybride. Ça veut dire, bon, ça c'est des questions plus techniques. Donc voilà, ça c'est quelques idées. Tout ça dans l'idée de pouvoir servir à des applications industrielles, agricoles et pour la vie de tous les jours des gens. Et après, bon, il y a tout ce qui vient après, y compris par exemple le développement du Negev. Le Negev en Israël, c'est le désert. Bah, en réalité, le Negev pourrait être développé et être rendu florissant comme d'autres déserts, comme l'ont fait par exemple les Chinois. Donc les Chinois ont fait, je vais terminer là-dessus, mais il y a toute une région déserte qui est à peu près la taille de l'Allemagne, qu'ils ont entouré d'une ceinture verte. Et donc pour eux, l'objectif, c'est clair, c'est de transformer cette zone désertique en zone verte et florissante. Voilà.
C'est ce qu'il faut espérer d'ailleurs pour cette région du monde où en ce moment ça se passe vraiment pas bien. Il va falloir d'ailleurs repeupler cette région, redensifier et bien entendu je pense que rendre habitable un désert comme celui du Negev, ça ne peut ne pas être négligeable. Et voilà, donc on conclura cette émission disons que l'eau est très importante. Odile, on te retrouve pour une prochaine émission avec un grand plaisir parce que c'est toujours passionnant. Merci beaucoup Odile, passe une excellente, un excellent été.
Et merci à vous tous et très bon été aussi.
Chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Il y aura un petit peu moins d'émissions pendant ces 2 mois, de juillet et août. Et puis on reprendra correctement dès septembre avec une émission tous les lundis soirs. À très bientôt, au revoir.